Ah, la ville de Québec. Hein, Pascal? Des abribus à 1 million. Du déneigement de pistes cyclables à 1 million.
Mais c'est sûr que ça m'intéresserait de savoir pourquoi on est passé d'une subvention de 100 000 à 50 000.
Exactement.
Puis on l'a mis dans quoi? En même temps, je comprends si les budgets étaient faits ainsi. Ouais. Si la subvention est tombée deux jours avant, par exemple, c'est là où je comprends moins.
Moi
parce
aussi.
Que c'est un peu un manque
on
de...
On nous propose le 50 000 est parti dans les capteurs de bruit à 70 000 dans le Vieux-Québec. Très grosse utilité. 418-971-1021. Vous pensez que ce 50 000-là, il est parti où?
Oui, on manque de galanterie économique, assurément, dans le dossier.
Mais... Hey, on n'avertit personne. Mais moi, c'est ça qui me fait capoter.
Ben...
C'est que on n'a pas la décence d'avertir les gens pour la dernière minute.
Ouais,
c'est là, Audrey-Anne, c'est une commerçante full dynamique, full Québec. Tu sais, je veux faire rayonner ma ville. Puis on n'a même pas la décence de l'aviser.
Il s'est arrivé quelque chose.
Ce fameux Bruno Marchand-là, de bah, s'il y a des commerçants qui ferment, là, il y en a d'autres qui vont rouvrir. Là.
Non, ça me
on le sent dans ses actions. C'est ça qui me dérange.
Il s'est peut-être passé quelque chose. Je veux juste laisser ça sur la table.
Ouais.
Mais sérieux, s'il y a une entreprise qui se dit, moi, je vais le mettre le 50 000, qui est refusé ou quoi que ce soit. Je comprends, là, si c'est Pornhub qui arrive, là, je comprends que tu le refuses au Saint-Louis, OK? C'est pas très convivial et familial. Cependant, si les mesures administratives sont trop lourdes pour permettre cette subvention-là ou ce montant-là qui serait mis par une entreprise pour faire rouler les lundis et les mardis contre cette publicité-là, hey, là, je décroche.
Oh, mais
je te dis, un entrepreneur que cet argent-là, dans son budget marketing, va faire un coup de fou. C'était...
Un coup de génie, parce qu'il y a énormément de gens et ça va lui rapporter. Parlant d'économie, Pascal, on est en plein renouvellement de l'ACEUM. Ça se déroule présentement à Washington. La date butoir du 1er juillet approche à grands pas parce que c'est demain. Et on a Renaud Brossard, vice-président communication pour l'Institut économique de Montréal, qui est avec nous. Renaud, comment vas-tu?
Ça va super bien. Comment ça va, vous autres?
Hey, ça va super bien. Renaud, ABC de l'ACEUM et de ses dates. Là, on arrive au 1er juillet. Y arrive quoi? Si personne parle, ça continue?
Ça continue. Donc, essentiellement, la date butoir du 1er juillet, c'est dans ce nouvel accord de libre-échange qu'on a depuis 2020, là. Ce qu'est le 1er juillet 2026, c'est une date butoir pour que le Canada, le Mexique et les États-Unis disent « on veut continuer avec cet accord-là ». S'il y en a un des trois qui dit qu'il ne veut pas continuer ou qui dit rien, là, on rentre dans une période sur 10 ans où il va y avoir une négociation à chaque année pour essayer de renouveler l'accord sur une période de 10 ans. Puis si après 10 ans, on n'y parvient pas, là, c'est une autre paire de manches. Là, il va falloir voir est-ce qu'on a encore un accord de libre-échange. C'est sûr que, c'est moins pire que l'apocalypse qu'on voyait venir initialement. Là, au moins, c'est une période de 10 ans pour s'adapter. Par contre, quand une entreprise vient investir au Canada, puis qu'elle se dit, écoutez, je vais faire ma production au Canada, je vais pouvoir vendre au Canada, aux États-Unis, puis au Mexique, ben, elle vient pas investir pour une période de un an. Elle vient investir pour une période de long terme. Donc, ça a un gros impact sur l'investissement, ça a un gros impact sur ceux qui veulent venir faire affaire ici parce qu'ils ne savent pas est-ce que dans 10 ans, ils vont encore avoir accès au marché américain.
Oui, en effet, c'est cette incertitude-là qui est créée, qui fait très mal présentement au Canada et au Québec. Dis-moi, Renaud, présentement, tout ce qui est sous l'ACEUM est protégé de tarifs douaniers additionnels de Donald Trump. Par contre, au Québec, je regarde, bon, l'aluminium, c'est pas là-dedans. L'acier, c'est pas là-dedans. Le bois d'œuvre non plus. Est-ce qu'on est plus frappé au Québec à l'heure actuelle que dans le reste du Canada?
Absolument. On est plus frappé que plusieurs autres provinces. Puis ça, les données le démontrent. Juste avec, puis justement, comme vous mentionniez, là, il y a la question de l'aluminium, du bois d'œuvre, de l'acier. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de l'automobile en Ontario, qui est quand même assez touché aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça qui nous affecte le plus, c'est ce qu'on appelle les tarifs sectoriels. Donc ça, c'est quand Trump disait, écoutez, je vais mettre un 50% sur l'aluminium étranger. Ben ça, ça nous affecte. Parce que ça, c'est pas couvert par l'ACEUM. Par contre, il faut quand même voir une chose. Un tarif douanier, là, je veux dire, le président Trump a beau essayer de le présenter comme étant quelque chose qui est payé par les producteurs étrangers. La théorie économique est très claire. C'est une taxe. C'est une taxe à la consommation. Puis c'est les consommateurs locaux qui le payent. En très, très large partie. Donc, d'abord, c'est l'importateur qui le paye, qui va ensuite revendre son produit plus cher au distributeur, qui va ensuite le revendre plus cher au détaillant, puis qui va le revendre plus cher au consommateur en bout de ligne. C'est quelque chose qui a eu un effet justement sur l'inflation aux États-Unis dans les derniers mois. Ben, comme il y a beaucoup de produits qui autrefois n'étaient pas tarifés, ensuite qui ont eu, dans certains cas, des tarifs, dans d'autres cas, des ajustements au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ben, ça a un effet sur les prix. Faut voir aussi que beaucoup de ces produits-là, les États-Unis ne peuvent pas les remplacer demain matin. Tu sais, je prends l'aluminium, par exemple. On produit énormément d'aluminium au Québec. Les États-Unis importent 3,2 millions de tonnes d'aluminium du Canada à chaque année. Les États-Unis en produisent 750 000 tonnes. Fait que c'est sûr que demain matin, je veux dire, est-ce qu'ils peuvent augmenter leur production de 50 000 tonnes, peut-être, là? Mais ils ne peuvent pas remplacer cet apport-là du Canada rapidement. Ensuite, il faut voir, quand les alumineries s'installent à quelque part, ils le font pour une raison. L'aluminium, essentiellement, ça prend énormément d'énergie pour faire ça. C'est pour ça qu'on a des alumineries au Saguenay, dans des régions près de là où on a des barrages, parce que l'énergie coûte moins cher, parce qu'on a un gros avantage en termes de ressources naturelles à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on fait la matière première ici, c'est parce qu'on a la ressource naturelle qui est l'énergie. Les États-Unis ont des coûts d'énergie qui sont beaucoup plus élevés. Donc, même s'ils voulaient repartir une aluminerie demain matin, les coûts de production seraient tellement élevés que finalement, c'est les Américains qui se ramassent à payer des tarifs sur l'aluminium parce que ça coûte moins cher de l'importer, même avec le tarif, que de le produire sur place.
Dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des chances que Donald Trump soit ouvert à la discussion ou tu crois qu'il va tenir sa ligne dure?
Je pense qu'il y a des chances que les États-Unis, en général, soient ouverts à la discussion du gouvernement américain. J'ai l'impression que le président Trump va tenir la ligne dure, mais c'est quelqu'un qui est très difficile à lire. Tu sais, c'est quand même quelqu'un qui disait: je préférerais pas signer l'accord, mais peut-être que je vais le signer
Ouais, c'est ça
finalement.
exactement.
Qui a aussi annoncé des tarifs un peu en montagne russe. Je pourrais pas dire que j'ai nécessairement une lecture de ce que lui va faire. Par contre, ce que je vois, c'est que ben, il y a quand même beaucoup de difficultés avec la question des tarifs. Parce qu'il y a beaucoup d'élus républicains, puis beaucoup d'élus démocrates qui sont pas de son bord là-dessus. Et surtout, s'il veut justement mettre fin à la CA. Mettons qu'il voulait y mettre fin puis s'en retirer, il y a un processus pour ça, mais le processus nécessite l'accord du Congrès. Puis je crois que si c'était réellement son objectif, je pense qu'il est en même temps conscient qu'il n'aurait pas l'accord du Congrès pour le faire. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous aide un peu à avoir un peu plus confiance en ce qui va s'en venir là-dessus.
En terminant, Renaud Brossard, vice-président communication pour l'Institut économique de Montréal, en entrevue dans Marceau le matin avec nous hier matin, et François Blanchet, le chef du Bloc québécois, disait craindre dans les négociations pour la gestion de l'offre. Est-ce qu'il fait bien de craindre ou non?
Écoutez, j'espère que ces craintes vont se matérialiser. Puis je vais être vraiment très franc, là. Pour moi, la gestion de l'offre, si c'est pour faire rentrer, si on la laisse tomber, ça devrait pas être pour plaire aux Américains. Si on la laisse tomber, ça devrait être parce que c'est quelque chose qui coûte cher à toutes les familles canadiennes tous les ans, là. Si on a des tarifs douaniers de 300% sur certains produits, c'est parce que ça nous coûte tellement plus cher acheter les produits de la gestion d'offres que ce qu'on pourrait obtenir avec du libre-échange. Je pense qu'on devrait se débarrasser de la gestion de l'offre. J'espère que c'est quelque chose qui va enfin tomber, mais on devrait pas le faire pour plaire aux États-Unis. On devrait le faire parce que c'est une bonne mesure. On calculait à l'IEDM, ça coûte à peu près 224 piastres par Canadien par année maintenir la gestion de l'offre. Je veux dire, ça, c'est des choses que n'importe qui, quel que soit le niveau de revenu, paye. J'ai quand même de la misère à me dire qu'on va demander justement à des gens qui ont de la misère à arriver à la fin du mois de payer 224 piastres de plus par année pour justement protéger un secteur avec des marges de profit qui sont quand même assez significatives.
Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous pour nous éclairer sur l'OCEUM, j'appelle ça l'ABC de cette entente. Un grand merci.
Toujours un plaisir. Bonne journée.
Salut. Salut Renaud. Renaud qui frappait en relève de notre ami Gabriel Giguère qui est en vacances, justement au Saguenay. Il m'a dit ça. Je suis en vacances 2 semaines au Saguenay. Profites-en bien, mon Gabriel. Il va être disponible pour toi et Mathias.
Toute
Dans
l'été.
3 semaines. Toute l'été,
Puis
Gabriel Giguère.
Dieu sait que l'économie en ce moment, là, c'est le nerf de la
Oui,
guerre.
puis là, on parlait du Québec qui était affecté justement par ces tarifs-là, beaucoup en raison de l'aluminium et du bois d'œuf. Puis le Québec est affecté par une autre crise, Pascal, c'est celle du reprenariat. C'est très difficile à l'heure actuelle pour les entreprises de se trouver justement quelqu'un pour reprendre leur entreprise. Fait que des entrepreneurs florissants, comme on vient d'avoir avec Audrey Anne Pouliot, bien, c'est tough pour eux autres de trouver la relève. Et on va en parler après la pause avec Pierre Graff, qui est PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, parce qu'ils ont fait une étude indépendante puis ils ont des demandes à faire au gouvernement. Ça tombe bien, on arrive en campagne électorale.
C'est parmi ces gens-là, entre autres Pierre Graff, là, ouais, qu'on a consulté en fait sur le sujet il y a quelques mois. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait un reportage. Puis eux, ils lâchent pas
exactement,
l'affaire.
Ils lâchent pas le morceau. Puis il va falloir que tu me parles de ton histoire aussi. C'est quoi l'embryon?
Nouvelle.
Ouais.
La nouvelle dont je te parlais
tantôt. Il va falloir que tu me parles de ça après la pause.
Oui, l'embryon congelé qui aurait été utilisé à l'insu du père par une ex-conjointe.
C'est ça.
Ouais.
Assez weird.
Ouais, pour ceux d'$1 million.
On parle de ça après la pause. Salut! Jusqu'à 4.